Chapitre 10. Ne crains pas l'adversaire qui s'agite et menace. Méfie-toi comme la peste de celui qui ne dit pas un mot et se recule à chaque fois que tu fais un pas dans sa direction. Proverbe du quartier de Vanves. Cité unifiée de Nilopa. Le suspect est considéré comme extrêmement dangereux, monsieur. Mina se demanda si sa nausée récurrente, pénible, était due à l'abus des correcteurs neuronanaux. Ce jour, encore moins que les autres, elle n'avait envie d'entendre la voix métallique de Caton. « Voyons comment votre petit protégé s'en sort par lui-même. J'ai parfois l'impression que vous le traitez avec la même considération qu'un rat de laboratoire, monsieur. Nous sommes tous des rats de laboratoire, confrontés à nos limites. Si vous connaissez une meilleure façon d'évaluer le potentiel de la nouvelle génération de biopuces, n'hésitez pas à m'en faire part. » Le cynisme de son interlocuteur la révulsa. « Il s'agit d'un homme, pas d'une biopuce. D'un couple, plus exactement. Le cerveau et la biopuce sont désormais organiquement liés, inséparables. Que cherchez-vous à prouver, monsieur? Que l'être humain ne se suffit plus à lui-même? Vous marquez une certaine tendance à outrepasser votre rôle de gémine, mademoiselle. Quels que soient vos états d'âme ou votre degré d'empathie, je vous interdis d'intervenir. » La voix de Caton était devenue tranchante. « Nous souhaitons que votre protégé abandonne totalement l'initiative à sa biopuce, et nous voulons savoir comment cette dernière prendra le relais de son cerveau. » « Une expérience fascinante, n'est-ce pas ?» Mina n'eut pas la force de lui cracher le fond de sa pensée. Elle n'avait qu'à démissionner si elle refusait de cautionner les agissements de son supérieur. Mais accro à son travail comme à une drogue dure, elle n'aurait pas supporté de ne plus être reliée aux matrices de la cité. Elle se demandait parfois si ces dernières n'avaient pas pris possession de son âme, comme les démons des contes qui se glissaient dans les corps des hommes ou des femmes endormies pour prendre le contrôle de leur esprit. « C'est vous qui le dites, monsieur. » Vanves était l'un de ces quartiers qui avait connu un développement fulgurant et anarchique après la fondation de Nilopa. Il avait fallu loger d'urgence un grand nombre de réfugiés après la fermeture définitive de la cité unifiée, et les autorités débordées avait paré au plus pressé. Vanves se présentait comme un enchevêtrement de ruelles, de rampes et d'escaliers qui formaient un dédale où il était facile de s'égarer. Les riverains l'avaient d'ailleurs surnommé le labyrinthe de Plaze, du nom de l'architecte qui avait conçu ce délire urbain. Poursuivre un suspect dans le cœur tortueux de Vanves était un défi que peu de flics ou de fouineurs étaient capables de relever. Les cheveux cendrés de Philémon Barthès volait comme une oriflamme au-dessus des têtes des passants. Sa grande taille facilitait la tâche de Ganesh, qui courait en gardant les yeux rivés sur ce point de repère. Il n'avait pas toujours le temps d'esquiver les piétons qui se pressaient sur son chemin. Il les bousculait, les renversant parfois comme des quilles, poursuivant sa course sans leur accorder un regard ou un mot d'excuse, semant derrière lui des bordées de jurons et d'insultes. Il enfilait les escaliers et les rampes sans reprendre sa respiration. Suivait sans réfléchir les indications de sa biopuce, dont la fréquence s'était réglée sur celle du fuyard. Suspect localisé à environ 50 mètres. Deuxième escalier à gauche. Son endurance surprenait Ganesh. Il n'avait jamais aimé le sport, n'était pas l'un de ces athlètes capables de courir pendant 2 heures, n'avait pas obtenu de bonnes notes en exercice physique lors de sa formation. Cependant, il continuait de franchir les escaliers et autres passages sans ressentir le moindre signe d'essoufflement ni de défaillance. Il gagnait même du terrain sur le suspect qu'il apercevait parfois à moins de 30 mètres devant lui, au milieu des passants. Philémon Barthès s'engagea dans une impasse bordée de chaque côté par des boutiques de vêtements. Comme un insecte prisonnier d'un bocal, il piqua droit sur le mur qui fermait le passage. Affolé, il tourna sur lui-même et fit face à son poursuivant, qui pointait son taz sur lui. « Bouge plus !» ordonna Ganesh. « Je suis fouineur et j'aimerais te poser quelques questions !» Des femmes qui sortaient des boutiques, les bras chargés de sacs, poussèrent des exclamations d'effroi. Analyse des yeux du suspect. Détection d'une biopuce pirate, accélérant la coordination cerveau-muscle et rendant insensible à la douleur. Visez la région du cœur. Colle ton dos contre le mur, lève les mains et ne bouge surtout plus! Ganesh observa Philémon Barthès. Plus de 2 mètres, une maigreur inquiétante, un visage blêmi par l'effort. Des yeux d'une couleur indéfinissable entre jaune, brun et vert, une cicatrice boursouflée sur un côté du cou, des cheveux cendrés aux mèches inégales, un survêtement noir aux bandes bleues, des baskets également noires. Difficile de lui donner un âge.
Âge estimé, 37 ans.
Ganesh se rapprocha à pas lents du suspect. Trois jeunes femmes sortirent d'une boutique sans remarquer la présence des deux hommes près du mur. Barthès bondit sur elle avec une rapidité stupéfiante, en saisit une par le cou et la plaqua sans ménagement contre lui. Elle hurla. Les deux autres lâchèrent leurs sacs et reculèrent.
« Lâche-la !»
glapit Ganesh. Le bras de Philémon Barthès se resserra sur le cou de la femme, dont la respiration devint sifflante.
« Si tu bouges, enfoiré, je lui broie les cartilages »
cracha-t-il.
« Vas-y si tu l'oses, balance-lui tes 20 000 volts dans le bide. Qu'est-ce que t'attends ?»
Le Taz semblait être une arme dérisoire face aux pistolets et aux fusils d'assaut qui, malgré l'interdiction formelle de détention d'armes, proliférait dans la cité unifiée. Il se révélait pourtant d'une efficacité redoutable. Aussi rapide que la plus rapide des armes à feu, il paralysait les centres nerveux et permettait d'éviter les bavures. En théorie, il arrivait parfois, souvent, que la décharge électrique entraîne un arrêt cardiaque définitif. Raison pour laquelle les fouineurs et les flics hésitaient à se servir du Taz quand ils risquaient de toucher un passant ou l'otage d'un plombeur. La femme gémissait. Ganesh renonça à apprécier la détente. Hors de question de mettre la vie de l'otage en danger.
« Lâche immédiatement cette femme, Philémon Barthès !»
répéta-t-il d'une voix calme. D'autres clients des boutiques s'agglutinaient autour d'eux, formant un large demi-cercle silencieux et figé. Philémon Barthès ricana. La femme ressemblait à un pantin désarticulé dans ses bras.
« Viens la chercher ! J'ai seulement quelques questions à te poser. J'ai pas envie d'y répondre. Dégage, fantôme ! Et je la laisse partir. »
Analyse morphopsyché. Suspect incapable de maîtriser ses pulsions. Imperméable à la raison. Incontrôlable.
Laisse-la partir d'abord, proposa Ganesh. Et je passerai l'éponge sur tout ça. Si tu n'as rien à te reprocher, ce serait dommage de te faire coffrer et redresser pour prise d'otage.
Philémon souleva la femme. Les jambes de l'otage gigotèrent dans le vide.
Pas envie de répondre à tes questions, je te dis. Tu sais même pas de quoi je veux te parler. « Rien à branler !»
S'il voulait que la femme sorte indemne des griffes du suspect, Ganesh n'avait qu'une solution. Feindre de battre en retraite, puis reprendre la poursuite.
« D'accord, d'accord, je dégage !»« Mais tu as intérêt à la relâcher. Je te jure sinon que je transformerai ta vie en enfer !»
Philémon Barthès reposa la femme. Elle gémit en sourdine.
« C'est ça ! Fous le camp !»
Ganesh fit signe au badaud de se disperser et se replia. Il passa dans la rue perpendiculaire et perdit de vue le suspect et son otage, pestant intérieurement contre lui-même, humilié. Il se planqua dans un renfoncement et s'appliqua à recouvrer son calme et chasser ses pensées furibondes. Autorisation requise de passer en MDC. MDC ? Mode direct contrôle, dérivation cérébrale. Élimination des pensées parasites. Décision prise depuis la base de données. Optimisation estimée entre 35 et 40%. Ça veut dire que je n'ai plus d'initiative, plus de libre arbitre. Mode provisoire. Gain de rapidité et d'efficacité. Ça marche comment? Passage en mode détection permanente. Localisation de la biopuce du suspect. Décryptage de sa biopuce pirate. Le MDC ne provoque ni dépression cérébrale, ni organique. Je n'aurai aucune séquelle, c'est ça? Probabilité 83%. Je pourrais reprendre le contrôle ensuite? Durée maximale du MDC, 30 minutes. Je n'aime pas trop ça. Mais ça vaut le coup d'essayer. Je voudrais bien savoir ce qu'il a dans le ventre, ce cher Philémon. Autorisation accordée. MDC. Il eut l'impression soudaine de décoller du sol et de franchir à toute allure une cinquantaine de mètres entre les façades. Quand il se stabilisa, il flottait quelques mètres au-dessus de Philémon Barthès. Le suspect tenait toujours la femme par le cou. L'impasse s'était vidée de tous ses passants. Il comprit que les balises satellitaires avaient pris le contrôle de son esprit. Il devait maintenant attendre que Barthès relâche son otage. On frappa à la porte du bureau de Théodore.
« Ennui !» pensa-t-il aussitôt.
Seuls ses supérieurs prenaient la précaution de frapper avant de s'introduire dans son antre.
Il ne fut donc pas surpris de voir entrer Ardouin, le chef de section. Un homme si ennuyeux et terne que le fouineur ne parvenait jamais à se remémorer ses traits. En revanche, la jeune femme qui le suivait, petite blonde au visage angélique et aux yeux clairs, attisa immédiatement sa curiosité.
« Salut Théo !»
Ardouin tendit le bras en direction de la jeune femme.
« Je te présente Ava. »«
Bonjour, » dit-elle.
« Oui, et alors ?»
grogna Théo. Il entretenait sa légende de fouineur le plus mal embouché du central.
« J'ai pensé à toi pour son stage de fin d'études. »«
Pas question. Tu sais très bien que j'ai toujours eu horreur d'avoir quelqu'un dans les pattes. »
Ardouin ne parut pas déstabilisé par la réponse de Théo. Sans doute avait-il anticipé sa réaction.
« Tu as accepté d'être le parrain de Ganesh, et ça s'est bien passé, non ?»«
Ganesh est et restera une exception. »
Ardouin se pencha sur le bureau de Théo et marqua un temps de pause avant de reprendre, d'une voix sèche.
« Tu n'as pas bien compris, Théo. Tu n'as pas le choix. Ava sera ta stagiaire, que ça te plaise ou non. »
Théodore soutint sans ciller le regard de son chef de section.
« J'aime ton sens de la concertation, mais choisis quelqu'un d'autre. Il y en a beaucoup qui seraient ravis de prendre sous leur aile un joli petit lot comme elle. Je préfère bosser en solo. »«
Merci pour le joli petit lot, » lança la jeune femme.
Théodore s'inclina avec un petit sourire.
« De rien. »
Ardouin se redressa et resta un petit moment silencieux, absorbé par ses pensées ou les analyses de sa biopuce.
« Justement, Théo, ça fait trop longtemps que tu travailles seul. » reprit-il. « Tu as perdu le sens du collectif. Nous traversons une période difficile et nous avons besoin de nous serrer les coudes. »
« Je pense au contraire que le collectif nous tire vers le bas, » objecta Théo. « C'est une addition d'inertie, sûrement pas une association d'énergie. J'ai obtenu mes meilleurs résultats en travaillant seul. Je vois pas pourquoi ça changerait aujourd'hui. »
« C'est à moi d'en décider, Théo. J'estime que le temps est venu pour toi de recoller au groupe. »
Théodore se leva. Sa biopuce lui suggérait qu'Ardouin, cette fois, ne lâcherait pas, qu'il avait probablement reçu des ordres et qu'il jouait sans doute sa carrière.
« Et si je refuse ?»«
Je te mets à pied pour une durée indéterminée, » répliqua le chef de section. « Je fais un rapport où j'affirme que tu as cessé d'être un élément fiable. On pensera que tu souffres d'un début de cybernétose. On te retirera du terrain et on te rangera dans un placard d'où tu ne ressortiras que pour passer dans l'incinérateur. Suis-je assez clair ?»
Théodore hocha la tête avant de se tourner vers la jeune femme et de lui tendre la main.
« Soyez la bienvenue. »
La fermeté de la poignée de main d'Ava le surprit.
« Merci. »
Ardouin se dirigea vers la porte du bureau.
« Voilà un excellent début. Je vous laisse faire plus ample connaissance. »
Le chef de section sortit et referma la porte derrière lui.
« Je suis désolé, je l'ai pas voulu. »
fit Ava au bout de quelques secondes d'un silence pesant.
« C'est pas ta faute. »
Théo retourna s'asseoir à son bureau et ouvrit un tiroir.
« La hiérarchie ne supporte pas l'individualisme. Désolé pour l'accueil. »«
Bah, j'ai connu pire. »«
Une cigarette ?»«
Vous fumez ?»«
Ça m'arrive. Toi aussi, d'ailleurs. »«
Comment vous le savez ?»«
Ma biopuce, qui fait en permanence des analyses morphopsychées, me dit aussi que tu prends des accélérateurs cérébraux de type neuronano. Tu as vraiment l'intention de devenir fouine ?»
Ava s'assit en face de Théo et prit une cigarette dans le paquet qu'il lui présenta.
« Depuis que je suis toute petite, j'ai jamais rien voulu faire d'autre. »
« Alors tu ferais bien d'arrêter le tabac et les deux aines, jusqu'à ce que tu reçoives ta biopuce, ou tu risques d'être recalé et de terminer ta vie dans un placard. »
Il lâcha un petit rire.
« Bah, on s'y tiendra compagnie. »«
Pas question, » protesta-t-elle. « Je veux aller sur le terrain, battre avec le cœur de la cité. »
« Dangereux. » « J'ai payé et chèrement pour le savoir. »«
Je m'en fous. Je suis prête à en payer le prix. »
Cette gamine lui plaisait.
« Je te souhaite sincèrement la bienvenue, Ava. On signe notre pacte ?»
Il alluma un briquet et approcha la flamme de la cigarette d'Ava. La jeune femme expulsa un volumineux nuage de fumée par les narines et la bouche.
« Vous vous fournissez où ?»«
Il est très facile de se procurer des produits interdits quand on dispose d'une biopuce de fouineur. » « Ne t'inquiète pas, ça fait une bonne trentaine d'années que j'occupe ce bureau et jamais personne n'a deviné que je clopais.
Vos collègues sont pourtant équipés de biopuces analytiques comme vous.
Si ça t'intéresse, je te montrerai comment reprogrammer ta biopuce pour brouiller les analyses morphopsychées.
Ça te fera une couronne d'épines supplémentaire, mais on n'a rien sans rien.
Une couronne d'épines ?
On ne vous apprend vraiment rien au centre de formation.
C'est comme ça qu'entre nous on appelle les céphalées provoquées par la présence de la biopuce dans le cortex.
Elles te coûteront 15 ou 20 ans de ta vie.
Bon, assez perdu de temps. On a du pain sur la planche avec les ombres. Elles sont le plus grand défi jamais lancé à la cité unifiée.
Ava et Théo tirèrent quelques instants en silence sur leurs cigarettes.
Vous avez des pistes ?
Ça se pourrait.
Le satanisme était une pratique en vogue dans la population de Nilopa. Les sociologues expliquaient le phénomène par le désir inconscient d'échapper à l'enfermement de la cité unifiée. Puisqu'on ne pouvait pas s'aventurer au-delà du périmètre de sécurité, les adeptes s'évadaient dans des rituels d'un autre âge, des rituels primitifs basés sur le sang et la transe. On aurait pu parler de catharsis ou de jeu de rôle si certains participants n'avaient pas trouvé la mort au cours des cérémonies. Les archives du central évoquaient des viscères éparpillés, des cœurs arrachés, des corps écorchés. Des observateurs attentifs auraient tiré des conclusions alarmantes de ces pratiques macabres. Signe avant-coureur de la morbidité destructrice des cités, elles annonçaient la fin d'un monde s'affaissant sur lui-même, parce qu'il n'avait pas su se régénérer.
Suspect réfugié dans la péniche du 34 quai Marcelin-Beaupré. Détection de la présence de trois hommes dans le carré d'accueil. Disposition. Deux assis sur la banquette, un en face, assis sur un tabouret.
Le toit empêchait Ganesh de voir par les yeux des balises satellitaires. Taz en main, il franchit la passerelle qui reliait le quai de la Seine à la péniche. Des voix transperçaient les cloisons de bois. Il craignit que le craquement des lattes sous ses pas ne donne l'alerte, mais parvint sans encombre devant l'entrée plongeante située au milieu de la péniche et dévala silencieusement les quelques marches qui donnaient sur une porte entr'ouverte. Sa longue course n'avait provoqué ni essoufflement, ni point de côté, ni fatigue.
Temps estimé. Une seconde pour frapper les deux hommes assis sur le canapé. Une seconde supplémentaire pour toucher le troisième, assis sur un tabouret à gauche du carré. Estimation des chances, 65%. Compte à rebours action. 3, 2, 1.
Ganesh poussa la porte, se précipita dans le carré d'accueil, visa les deux silhouettes vautrées sur le canapé, pressa la détente en continu jusqu'à ce qu'il s'affaisse, chercha des yeux le troisième homme assis sur le tabouret, aperçut Philémon Barthès qui tentait de s'enfuir par la porte opposée. Le fouineur releva le canon du Taz pour l'atteindre à la nuque et décocha une nouvelle salve. Le fuyard s'immobilisa, touché par les rayons crépitants, choqué par la décharge électrique, puis esquissa quelques pas vacillants avant de s'effondrer comme une masse sur le plancher.
Suspect neutralisé. Temps de réanimation estimé, 1h25. Biopuce pirate des suspects relié en permanence à une base de données cryptée, également utilisée comme accélérateur cérébraux. Fin du mode direct contrôle. Fin du mode direct contrôle.
Ganesh s'avança dans le carré et s'assit sur le tabouret, aux prises avec une soudaine et violente migraine.
J'ai mal au crâne. Je croyais que le mode direct contrôle ne provoquait aucune perturbation physiologique, aucune céphalée.
Marge d'erreur, 17%.
Je fais partie des 17 apparemment.
Il est possible de craquer le cryptage de la base de données à laquelle sont reliées les puces de ces trois-là ?
Déverrouillage amorcé. Temps estimé, 20 minutes.
Parfait. On aura le résultat avant leur réveil.
Les ombres avaient provoqué un tel chaos dans la Nilopa que les citadins s'agitaient en tous sens comme des mouches à l'intérieur d'un bocal renversé. Les fouineurs passaient au peigne fin les rues et les arcanes virtuelles. Les dirigeants vituperaient et soumettaient leurs collaborateurs à une pression continue infernale. Des batailles décisives semblaient engagées. Mais on ne savait pas encore qui était l'adversaire, ni d'où allaient surgir les prochains coups. En outre, le désordre semblait arranger les uns et désavantager les autres. À qui profitait la situation ?
La réponse à cette question était la clé qui aurait ouvert les bonnes portes. Mais les véritables bénéficiaires exploitaient justement l'entropie et les ténèbres qu'elles déployaient pour avancer masquées.
Caton se présenta à l'heure prévue au bureau d'Alaric Brognier. Comme chaque fois que le maire de Paris convoquait le responsable du bureau des fouineurs, il congédiait adjoint, conseiller et secrétaire, estimant que leur échange serait plus sincère et fécond s'ils étaient seuls.
« Vous m'avez fait demander, monsieur. »
Le maire désigna un siège à son visiteur et attendit qu'il prenne place.
Les ombres ont encore frappé, Caton. Mais vous le savez aussi bien que moi, je suppose. De nouvelles pistes ?
Caton ne révéla rien de son agacement. Toujours les mêmes questions. Toujours ce besoin névrotique des responsables politiques d'être rassurés. Mes hommes travaillent jour et nuit. Les archivistes épluchent sans interruption les bases de données de Nilopa. Et nous en sommes toujours au même point. Alaric Brognier posa ses coudes sur le bureau et joignit les mains à hauteur de son front.
Mes contacts m'ont appris qu'une fraction des grubs de New York avaient décidé de mener leur enquête sans en référer à leur hiérarchie, et qu'ils avaient contacté certains de nos agents. Avez-vous appris quelque chose à ce sujet ?
Non. Le maire se fendit d'un soupir bruyant.
Ne me dites pas que vous n'avez pas installé un système pour surveiller vos hommes. Vous êtes de ceux qui savent s'entourer de précautions.
Caton apprécia le compliment d'une légère inclination du buste. Je n'ai eu en tout cas aucun écho d'une quelconque rencontre entre les grubs et les fouineurs, ni par les biopuces, ni par les gémines. Mes hommes savent également se protéger, et je les y encourage. Imaginez que n'importe qui puisse pirater leur biopuce et avoir accès à...
En attendant, j'ai besoin d'avoir les noms des fouineurs contactés par ces grubs dissidents,
l'interrompit Alaric Brognier. Vous souhaitez vous séparer de ces hommes ?
Débrouillez-vous pour me fournir cette liste de noms dans les plus brefs délais, Caton.
Je vais mener mon enquête. Le maire croisa les mains et les reposa sur son bureau. Une posture d'autorité, estima le responsable du bureau des fouineurs.
Une dernière chose. Vous m'aviez parlé d'équiper vos fouineurs d'une nouvelle génération de puces, plus performantes. Où en êtes-vous de cette expérience ?
Elle est en cours, monsieur. Dès que nous aurons enregistré des progrès significatifs, je vous en informerai.
Vous ne seriez pas du genre à me dissimuler des informations, n'est-ce pas ? Je peux toujours avoir confiance en vous.
Ai-je un jour trahi votre confiance, monsieur ?
Oui. Les ténèbres nous ensevelissaient et nous empêchaient de désigner l'adversaire. Pourtant, il se tenait, là, sous notre nez. Tellement énorme, tellement évident, que nous étions incapables de le voir.
Des œufs qui éclosent dans le ventre de la mère, sortira le serpent qui dévorera un jour le père qui l'a fécondé. Proverbe attribué au clan du lynx de Trois Aubes. Pays hors site. Yosp s'agita sur le matelas posé à même le sol recouvert de lattes de bois.
L'homme méchant, il veut tuer deux lunes.
Naya garda les yeux rivés sur la petite lucarne qui ouvrait sur le ciel, sur la liberté.
Calme-toi, Yosp, ça fait 3 ou 4 jours que tu racontes la même chose.
Les heures me disent que deux lunes est maintenant en danger,
insista Yosp.
Je l'aime bien, deux lunes. Je veux pas que l'homme méchant lui fasse du mal.
Le regard de Naya revint se poser sur le petit homme. Il flottait dans sa tunique et son pantalon de peau, malgré les retouches effectuées par une couturière du clan. Elle-même portait un pantalon de toile grise et une veste de cuir informe, mais qui, en regard de la couverture récupérée chez les sauvages, lui semblait un sommet d'élégance et de confort. Elle avait pu se laver dans un bac en bois rempli d'eau chaude. Elle avait mangé un délicieux ragoût qui avait apaisé sa faim. Elle savait de lune en vie, l'espoir était revenu en elle, et son sang chantait de nouveau dans ses veines.
« T'inquiète pas, Yosp, c'est un malin, notre de lune. J'aimerais le revoir, moi aussi. Pour l'instant, on est au chaud, à l'abri, sous la protection d'un clan puissant. Mais il faudra rapidement que tu leur prouves que tu sers à quelque chose. »
Yosp se recroquevilla sur le matelas. Quelques instants plus tôt, il avait vidé avec une goinfrerie sidérante l'assiette fumante que la femme avait posée devant lui.
« Des fois, les heures me parlent. Des fois, elles me parlent pas. C'est pas moi qui décide. »«
T'as jamais essayé d'apprendre à les maîtriser ?»«
Elles me parlent, depuis toujours. Avant, les autres savaient pas. Je leur ai pas dit. Juste quand les hommes sans odeur et silencieux sont venus. Alors, je leur ai dit. Ils m'ont pas cru. Ils m'ont frappé. »
Son visage se crispa lorsqu'il prononça ces mots. La lumière tombant de la lucarne éclaboussait les cloisons de tôle maculées de taches de rouille. Les planches posées sur des pierres qui servaient de table basse, les matelas de plantes séchées et les couvertures de peau qui répandaient une doucereuse odeur de graisse. Des éclats de voix, de rires et d'autres bruits s'échouaient en vagues plus ou moins puissantes dans le silence de la pièce.
la femme leur avait confié qu'ils étaient logés dans une aile de la maison de Dronka.
« Tu veux dire que tu as gardé ça pour toi pendant toutes ces années ?» demanda Naya.
« J'avais peur. Je croyais tout le monde comme moi. »«
Ben non, mec. Il n'y en a pas beaucoup qui ont ce genre de pouvoir. Qu'est-ce que tu veux dire au juste par les hommes silencieux ?»
Yosp se redressa, visiblement embarrassé par ses vêtements. Il avait toujours vécu nu et supportait mal le contact du cuir, d'autant que les peaux, mal tannées, avaient une texture grossière, rêche.
« J'entends du bruit à l'intérieur des têtes !»
répondit-il. « Leurs pensées, c'est ça? Leurs pensées font du bruit ?»«
C'est pas, mais ça fait un bruit, un drôle de bruit, un bruit qu'on n'entend pas !»«
Et t'entends pas ce bruit chez les cavaliers de l'Apocalypse ?»«
Non ! Ils sont comme vides !»
Une pensée transperça Naya comme une flèche. « Ça voudrait dire qu'ils ne sont pas... humains ?»
Je me suis toujours demandé pourquoi les agglomérations du pays Orsit s'étaient développées sur les bords des fleuves et des rivières. Dans les temps d'avant la Grande Guerre, les cours d'eau présentaient un grand intérêt, servant à la fois de voies de communication, de garde-manger et de réserve d'eau. Mais l'eau était devenue plus dangereuse qu'utile, tellement polluée qu'elle n'était plus potable, et les poissons plus comestibles. Et puis, sauf pour aller d'une rive à l'autre, les habitants du pays Orsit avaient perdu l'usage de la navigation fluviale. Je crois finalement qu'ils s'étaient installés sur les rives des fleuves par la force de l'habitude. La proximité de l'eau, qui symbolisait la vie sur Terre, rassurait les survivants qui n'avaient pas eu la chance d'être admis à l'intérieur des cités unifiées. Ou alors, les Orsites pensaient que l'eau, comme la Terre, serait bientôt régénérée, et que la vie à nouveau palpiterait dans son sein.
Les aboiements s'éloignaient peu à peu, couverts par les frissonnements des panaches de roseaux, les sifflements du vent et le murmure mélodieux de l'eau. Des nuages déferlaient en hordes de plus en plus serrées au-dessus du fleuve.
« Je commence à me les geler !»
chuchota Geoff.
« Encore un peu de patience !»
répondit Delune à voix basse.
« On est dissimulé par les roseaux et puis on n'a pas d'autre façon d'échapper au flair des chiens !»
Ils s'étaient cachés dans la forêt de roseaux et enfoncés dans l'eau jusqu'au cou. Ils avaient coupé des tiges et s'en étaient servis pour respirer lorsque les hommes et leurs chiens avaient déboulé sur la grève pour passer les environs au peigne fin. Au bout d'un long moment, Delune avait sorti la tête hors de l'eau. La grève avait recouvré sa tranquillité.
« J'aime pas cette putain de flotte !» reprit Geoff. « J'ai l'impression qu'elle va me voler toute ma vitalité. On dit que la mort se planque là-dedans. »
Elle s'est sans doute tenue dans l'eau pendant un bon moment, mais maintenant, il n'y a presque plus de danger. Ou toutes les plantes, les roseaux, les arbres, les herbes auraient crevé depuis bien longtemps.
Peut-être, mais on caille.
Attendons qu'il s'éloigne. On se servira de la barque pour gagner trois aubes. Le visage déjà pâle de Geoff blêmit un peu plus.
Je monte pas là-dedans, moi.
Delune ne put s'empêcher de sourire malgré le sentiment d'inquiétude qui ne le quittait pas.
Tu me rappelles quelqu'un.
Les aboiements se rapprochèrent d'eux tout à coup. Delune fit signe au gardien de se taire. On distinguait les chuintements caractéristiques de semelles sur la terre humide.
« Ils peuvent pas être dans l'eau !» fit une voix. « Personne ne peut survivre plus de 10 secondes là-dedans. »« Je comprends pas pourquoi les chiens ont pas retrouvé leur piste !»
répondit une autre voix.
« Il y en a un des deux qui est un guérisseur, un foutu sorcier. Il sait peut-être effacer ses traces. On les retrouvera plus maintenant. Rentrons à trois aubes. » Le contact nous a pourtant recommandé de surtout pas le rater. On les aura une autre fois, te bile pas, et on touchera le reste de la prime.
La voix et les grondements des chiens diminuèrent rapidement. Le silence retomba sur la grève.
Je sors, grogna Geoff. J'en peux plus de croupir là-dedans.
Je crois qu'on peut y aller, approuva Delune. Ils regagnèrent la berge. Les rafales de vent s'engouffrèrent dans leurs vêtements mouillés et les frigorifièrent. Ils sautillèrent et tapèrent du pied sur le sol pour tenter de se réchauffer.
« Je reconnais que ton idée était la bonne »,
déclara Geoff d'une voix entrecoupée par les tremblements.
« Mais cette foutue flotte est vraiment glacée. Et puis, j'ai toujours peur qu'une putain de bestiole vienne me mordre les mollets. »
Les plus grands carnassiers qu'on connaisse sont les silures, les cendres et les brochets. Pas de quoi avoir peur, je t'assure.
« Je me demande comment tu connais tout ça, toi ?»
Le clan du haut lieu s'est spécialisé dans l'acquisition et la transmission de la connaissance.
D'où elle vous vient, cette connaissance ?
Des anciens, qui ont réussi à la garder après la Grande Guerre et qui l'ont léguée à leurs disciples.
Geoff continua de s'ébrouiller et de sautiller sur place. Des gouttes d'eau s'échappèrent en pluie de ses cheveux.
« Il n'y a pas de clan de ce genre à Trois Aubes !»«
La connaissance se perd partout. Aide-moi à dégager la barque !»
L'épouvante agrandit de nouveau les yeux du gardien.
« Je t'ai déjà dit que je monterais jamais là-dedans !»«
Sois pas si trouillard. Non seulement on ne risque rien, mais on s'épargnera la fatigue de la marche !»
L'argument ne pesa d'aucun poids dans l'esprit de Geoff.
« Je suis pas trouillard, mais je tiens pas à mourir noyé. Les anciens disent que l'eau retient l'âme des morts. »
Delune se remémora les enseignements de Dandora. Il mesura sa chance de l'avoir eu pour précepteur.
« Rien ni personne ne peut retenir une âme. »
Multiples étaient les prétextes pour déclencher une guerre des clans. Un conflit permettait au chef de saper l'influence d'un rival, s'emparer de ses biens. Asseoir leur domination sur une agglomération, laver une dette d'honneur, réparer une offense. Les prophètes ou les prêtres des diverses religions qui s'étaient développées sur les rives des fleuves soufflaient sur les divisions pour mieux régner, au point qu'un grand nombre d'entre eux supplantaient les chefs traditionnels dans le cœur de leurs fidèles et que leur puissance se faisait inquiétante. En outre, les guerres offraient aux membres des clans autant d'occasions de régler leurs comptes, de s'emparer de la femme ou de la maison convoitée, de se venger d'une insulte, d'une bousculade, plus simplement de répandre le sang.
Dronka et Pitbus s'invitèrent dans la pièce qu'ils s'obstinaient à appeler chambre quand Naya la considérait comme une geôle. On ne poste pas en permanence deux gardes devant la chambre de ses hôtes, ni on ne la ferme à clé.
Dronka s'avança vers Yosp. Le contraste était saisissant entre la carrure du chef du lynx et l'aspect chétif du petit homme.
Naya n'aima pas le coup d'œil vicieux que lui lança Pitbus.
D'après mes renseignements, un clan s'apprête à attaquer le lynx, déclara Dronka. Il veut récupérer nos camions et nos terrains de chasse. Nos gains ont été importants ces dernières années. Ils sont nombreux, ceux qui veulent prendre notre place.
Il faut arracher les crocs de ces chiens enragés avant qu'ils nous attaquent,
gronda Pitbus.
Encore faut-il savoir qui sont ces chiens. J'ai envoyé des yeux et des oreilles dans toute l'agglomération.
Ça veut dire que c'est le moment de faire ton boulot, Vigie.
Dronka décocha un regard noir à son second.
Du calme, Pitbus. Ne le brusque pas. Ceux qui ont le pouvoir sont fragiles.
Yosp parut encore se rapetisser sur son matelas.
Les heures me disent rien,
bêla-t-il.
Ouais? Eh ben, elles ont intérêt à dire quelque chose vite fait,
cracha Pitbus.
Il n'y a pas de bouche inutile dans le clan. Je suis bien certain qu'il n'y avait rien l'autre jour dans la forêt. Que tu as inventé cette histoire d'attaque pour sauver ta pauvre Kwan.
Si vous l'effrayez, il dira rien, intervint Naya.
Il peut pas commander ses visions, elles viennent toutes seules.
Pitbus brandit un bras menaçant en direction de la jeune femme. L'espace de quelques secondes, elle crut qu'il allait tirer son pistolet de sa ceinture et vider son chargeur sur elle.
Toi, t'as tellement la trouille d'être vendu que tu dirais n'importe quoi pour nous faire croire que ce monstre... Ferme-la ! Pitbus !
Donna Dronka.
Tu vas tout de même pas te laisser manipuler par ces deux-là !
Riposta Pitbus.
Moi je dis qu'il faut s'en débarrasser, et vite !
C'est encore moi le chef du clan. Encore moi qui prends les décisions.
On a amassé suffisamment de troubles pour nourrir deux bouches supplémentaires.
Pitbus tourna autour de son chef avec l'allure d'un jeune loup défiant le mâle dominant.
Je te reconnais plus, Dronka. C'est pourtant toi qui affirmes que la faiblesse perd un clan. Qu'il faut se montrer inflexible, plus féroce que le lynx sauvage.
Et je le pense toujours. C'est pas par pitié que j'ai épargné ces deux-là, mais parce qu'ils peuvent nous être utiles. Et c'est le rôle d'un chef de clan de s'entourer de toutes les garanties.
Pitbus ricana.
Un mutant à moitié débile et une fille plus maigre qu'un rat écorché, t'appelles ça une garantie? Tu devrais de temps à autre apprendre à fermer ta grande gueule.
Le ton de Dronka était devenu menaçant.
T'as sûrement mieux à faire que de contester mes décisions.
Pitbus écarta les bras en signe d'apaisement. Son air sournois indiquait qu'il n'en resterait pas là.
Je disais ça dans l'intérêt du lynx, Dronka.
Tu peux foutre le camp maintenant, que tu as craché ton venin.
Pitbus se rapprocha de la porte.
Comme tu veux, mais je persiste à dire que c'est pas une bonne chose de garder ces deux-là dans le clan.
Il sortit et claqua la porte derrière lui.
Il est courageux. Marmonna Dronka.
Dur au mal, mais il n'a pas plus de tête qu'un foutu moineau.
Pourquoi l'avoir choisi comme second, alors ? S'étonna Naya.
Je devais désigner un successeur avant mes 40 ans. C'est la loi des clans de Trois Aubes.
Mon fils est mort 2 jours avant l'annonce officielle. Il ne me restait plus que lui.
Pitbus est mon neveu.
Les bras de Yosp s'agitèrent comme les ailes d'un moulin à vent.
Les heures ! Elles me parlent ! Elles me disent : c'est lui, l'homme méchant qui a tué ton fils !
Les traits déjà rudes de Dronka se durcirent.
Quel homme méchant ?
Lui !
Cria Yosp en désignant la porte.
Tu veux dire celui qui vient de partir ? Insista Naya. Pitbus ?
Oui, oui !
Dronka se redressa comme si un serpent venait de le mordre.
Impossible, Vigie. Mon fils Twer a été tué par un ours. Ils sont 5 à l'avoir vu mourir.
Yosp tremblait maintenant de tous ses membres.
Les heures me disent. Des hommes entourent l'enfant. Ils lui veulent du mal. Leurs bâtons, des griffes et des dents. Il crie. Il se défend avec son couteau. Ils sont trop nombreux. Il le frappe. Il le frappe. Il est à terre. Il continue de le frapper et, lui, l'homme méchant, il dit « Oh, mon pauvre cousin, tué par un ours, il n'y a pas d'ours !» Les autres rient, ils dansent. L'homme méchant, il leur dit qu'ils auront les meilleures parts. Ils sont ses amis pour la vie. Pour la vie !»
Le visage de Dronka s'était figé en un masque de stupeur.
« Tu es sûr de ce que tu dis, Vigie ?» demanda-t-il d'une voix blanche.
Les heures ne lui mentent jamais, intervint Naya.
Je croyais qu'elle lui parlait du futur, pas du passé.
Yosp n'a pas la même notion du temps que nous. Nous, on le voit comme une ligne droite, passé, présent, futur. Pour lui, c'est plus compliqué, ça se mélange.
De grosses larmes roulaient maintenant sur les joues hâves de Yosp.
Les heures me disent... Elles me disent que l'homme méchant maintenant... Il veut te tuer. Il veut tuer Naya.
Et pas toi ?
La méfiance plissait de nouveau le nez et le front de Dronka.
Il est le plus souvent absent de ses visions, précisa Naya.
Elles ne disent rien pour lui-même.
Pitbus, murmura le chef du lynx. J'aurais donc réchauffé un serpent dans mon sein ?
Il est avec d'autres hommes méchants,
gémit Yosp.
J'entends leurs pensées. Elles sont blessantes.
La main de Dronka se posa sur la crosse de l'un de ses pistolets. Ses yeux étaient devenus presque entièrement blancs.
D'après ce que dit Yosp, il t'a trahi et s'est allié avec d'autres chefs pour prendre le contrôle de ton clan, ajouta Naya.
Voilà pourquoi il veut se débarrasser de nous. Il a peur des visions de Yosp.
Les sourieurs ont échoué, Ezok.
La fureur déforma le visage encore chaotique du guérisseur. Son interlocuteur pâlit. À Trois Aubes, les exemples étaient nombreux d'intermédiaires exécutés pour avoir apporté de mauvaises nouvelles.
Les misérables rats!
Le regard asymétrique d'Ezok scruta son vis-à-vis comme s'il tentait de sonder son âme.
Comment ont-ils pu manquer cette moitié d'hommes qui se baladent toujours sans armes?
Ils ont traqué 2 lunes sur la rive du fleuve. Ils lui ont tiré dessus, ils l'ont manqué, et puis il a disparu. Les chiens eux-mêmes n'ont pas retrouvé sa trace.
Seuls les sorciers savent déjouer le flair des chiens.
Ezok frappa la table du plat de la main.
« Ne dis pas n'importe quoi ! Les bons chasseurs savent également tromper le flair des animaux. Tu leur as dit qu'ils ne toucheraient le reste de l'argent que lorsqu'ils m'apporteront sa tête ?»
L'homme recula de 2 pas comme pour se soustraire à la vindicte du guérisseur.
« Évidemment ! Pourquoi tu lui voues une telle haine ? Il n'a pas l'air bien dangereux. »
Ezok le toisa avec mépris avant de relever la manche de son bras droit.
« Approche. Que vois-tu sur mon bras ?»
L'homme s'avança d'un pas hésitant.
« Une cicatrice ? » bredouilla-t-il.
« Qui n'est pas due à une blessure, » précisa Ezok. « J'avais autrefois un tatouage à cet endroit. » Je l'ai effacé quand je me suis enfui, ou plutôt, j'ai arraché le lambeau de peau sur lequel il se trouvait.
Pourquoi ?
Ezok rabattit la manche de son manteau de fourrure.
Pour ne pas être reconnu. J'avais enfreint la loi de mon clan et je ne voulais pas que sa malédiction me poursuive. En arrachant le tatouage, je reprenais ma liberté.
Quel était ton clan ?
Celui qui porte le symbole du serpent, symbole de la guérison et de la renaissance. Le clan de deux lunes, celui du haut lieu. Le clan des guérisseurs du noyau.
Ézoc garda un temps de silence, plongé dans ses souvenirs.
Deux lunes. C'est la malédiction qui m'a rattrapé. La malédiction que je dois écraser.
Les rumeurs de guerre dans les rues de Trois Aubes généraient autant d'excitation que de terreur. Le sang allait couler. Et une seule chose importait, finalement. Que ce ne soit pas le vôtre. Le conflit prenait fin lorsque les hurlements et les gémissements cessaient de retentir, supplantés par les clameurs des vainqueurs. La hiérarchie de l'agglomération était alors modifiée. Le clan vainqueur occupait une position importante, voire dominante. Le clan vaincu était rayé de la surface de la terre, les survivants vendus ou cloués sur les portes pour l'exemple, femmes partagées et enfants réduits en esclavage. Puis, l'existence reprenait son cours avec son lot de préoccupations quotidiennes et de petites misères. En un sens, les guerres claniques, en brisant la monotonie de la vie en agglomération, offraient à la population des intermèdes distrayants. Grar invita Delune et Geoff à prendre place à sa table. Aussitôt, une femme vint leur servir un ragoût où dominaient les saveurs de viande musquée et d'herbes aromatiques. Delune identifia l'odeur de la nette modifiée.
On m'a dit que tu avais été attaqué, Delune, gronda Grar après s'être essuyé les lèvres d'un revers de main.
Geoff et moi, on s'en est tiré sans dommage, répondit Delune.
Tu sais qui a lancé les sourieurs sur tes talons ?
Je crois en avoir une petite idée.
Je peux avoir la même, mais je n'interviendrai pas en ta faveur, Delune, même si tu es le meilleur guérisseur de Trois Aubes.
Delune mangea un peu de ragoût en écartant les morceaux de viande de rat. Geoff, lui, engloutissait le contenu de son assiette sans faire le tri.
« Je ne te le demande pas, Grar. »
« Je ne peux ni te donner une garde personnelle ni te boucler dans ta chambre. Tu as besoin de ta liberté de mouvement et moi j'ai besoin de mes gardes. C'est à toi d'être fort si tu veux survivre à Trois Aubes. À toi de faire ta place. À toi de régler tes problèmes. »
Grar s'essuya les mains sur un bout de tissu avant d'extirper un pistolet de sa poche.
« Ceci t'y aidera. »
Delune fixa l'arme sans trahir le moindre état d'âme.
« Merci pour ton offre, Grar. Mais mon serment de guérisseur m'interdit de porter des armes, » finit-il par murmurer.
« Comment veux-tu survivre sans armes ?»
s'insurgea le chef du perce-oreille.
« Il existe d'autres moyens, je crois. » Et puis, être armé n'a jamais empêché personne d'être tué. Un vieux proverbe d'avant la Grande Guerre dit que « celui qui vit par les armes, périt par les armes ».
Ici, ce serait plutôt « celui qui n'a pas d'armes meurt plus vite que celui qui en a une ». Je ne peux pas te forcer à accepter mon cadeau. Dommage. C'est un pistolet Smith & Wesson, d'avant la Grande Guerre. Un modèle en parfait état. Il t'aurait été très utile dans les jours à venir.
Geoff et Delune tournèrent en même temps la tête vers Grar.
Pourquoi ?
Une guerre des clans se prépare, et je ne sais toujours pas si le perce-oreille sera impliqué.
Tu n'as pas reçu d'émissaire ?
Demanda Geoff. Si, bien sûr. Mais je n'ai pas pris ma décision. J'ai rendez-vous tout à l'heure avec un traître, le second d'un clan puissant, un homme en qui personne ne peut avoir confiance.
Delune repoussa son assiette. La viande de rat noir le répugnait.
Ne l'écoute pas si tu ne peux pas avoir confiance en lui, dit-il. De mon côté, j'ai une requête.
Parle.
Ce n'est pas pour moi. Il s'agit de Gwenyl, la femme de Dark.
Cet idiot a eu le sort qu'il méritait. Mais il m'a permis de faire ta connaissance. Paix à son âme.
Après la mort de Dark, des gens se sont installés dans sa maison. Gwenyl ne sait plus où aller. L'hiver s'annonce rude. Elle n'a pas beaucoup de chance de survivre si elle ne trouve pas un toit.
Grar considéra Delune d'un air soucieux.
« Pourquoi tu te préoccupes de son sort ? » ?»«
Elle a toujours été bonne pour moi. »
« La reconnaissance. Un sentiment qui se perd dans Trois Aubes. »«
D'accord.
Je vais envoyer un de mes seconds régler le problème de Gwenyl. »
Delune le remercia d'un mouvement de tête.
« Fais bien attention à toi, Delune, » ajouta Grar. « Les temps sont difficiles.
Il n'y a pas de place pour la grandeur d'âme dans les rues de Trois-Aubes.